Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, président fondateur et pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Bienvenue encore. Bienvenue encore à la Maison du Bâtisseur. On va passer un petit moment de partage ensemble. On va parler de l'essentiel. Lorsque nous abordons le temps de parole, bien entendu, la personne la plus importante, c'est Dieu. La personne la plus importante, c'est Dieu, n'est-ce pas? Mais pendant le temps de parole, lorsque nous échangeons, pendant le temps de parole, c'est surtout de toi dont on parle. Parce que pendant le temps de parole, la personne qui doit être édifiée, c'est toi. C'est pas Dieu. La semaine dernière, nous avons commencé un thème qui est extrêmement important. La semaine dernière, nous avons parlé de beaucoup de choses ces dernières semaines. Et la semaine dernière, nous avons commencé un point très important. Nous avons ouvert une série que nous avons intitulée Les clés du royaume. Est-ce qu'on peut dire ensemble les clés du royaume? Les clés du royaume. Je vous assure, c'est un enseignement qui est très, très important. Les clés du royaume. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc, chapitre 10. Livre de Marc, chapitre 10, au verset 17. Au verset 17. Alors, il est écrit. Alors, les clés du royaume. Ok, on y va. La semaine dernière, nous nous sommes penchés sur un passage qui est très important, souvent qu'on passe comme ça. C'était le passage de Matthieu 16, verset 18, où Jésus-Christ a posé une question très importante à ses disciples. Jésus-Christ a demandé à ses disciples, alors, je vous ai envoyé, vous avez chassé les démons, vous avez fait tout ce que vous avez fait, vous avez vu comment tous les miracles que vous avez pu expérimenter. Maintenant, apparemment, on parle beaucoup de moi. On parle beaucoup de moi. Qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Et les disciples ont dit, tu es le prophète Jérémie, tu es le prophète Élie, tu es le prophète Ézéchiel, etc. Et ensuite, Jésus-Christ leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et là, personne ne répond. Personne ne répond. Et la question s'adresse, aujourd'hui, c'est une question qui s'adresse toujours à nous. La question que Jésus-Christ a posée, la question la plus importante de tout son ministère, c'était cette question-là. « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui remettent en question la divinité de Jésus, ils disent que ce n'est pas Dieu, etc. C'était par rapport à cette question-là. Et là, Il y a une personne qu'on appelle Pierre, qui est l'un des disciples, qui va dire, moi, je dis que tu es le Christ. Je dis que tu es le Messie, celui qui doit venir. Et Jésus-Christ lui dit, Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et ensuite, il dit une phrase très importante sur cette parole. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Je te donnerai quoi? Les clés du royaume. Qu'est-ce que nous avons dit la semaine dernière? On a dit la semaine dernière que dans chaque nation, dans chaque pays, chaque société civile, chaque royaume possède des lois, possède des règles que nous devons suivre pour pouvoir vivre en harmonie et dans la paix. Et ces lois, ces principes que nous suivons tous en tant que citoyens, par exemple du Gabon, c'est ce que la constitution du pays appelle un cadre juridique. Un cadre juridique auquel nous sommes tous soumis. Auquel nous sommes tous soumis. Et ce cadre juridique auquel nous sommes tous soumis et auquel nous obéissons, Jésus-Christ dit que dans le royaume, dans mon royaume, auquel vous appartenez aujourd'hui, il y a aussi des lois. Il y a aussi des règles. Et ce cadre juridique-là, au niveau du pays, est encadré par un document que l'on appelle la Constitution. Et dans le royaume, c'est ce que nous avons dit la semaine dernière, dans le royaume de Dieu, il y a aussi une Constitution. Et cette Constitution, dans le royaume de Dieu, est appelée, dans un terme que l'on prononce communément, la Bible. Est-ce qu'on peut dire la Bible? La Bible. La Bible est le livre le plus important que tu dois lire. Parce que la Bible n'est pas un livre religieux. La Bible n'a rien de religieux. D'ailleurs, quand tu ouvres ta Bible, les trois quarts du temps, on te parle de politique. On ne parle pas de religion. On te parle de bataille entre les rois, entre des royaumes. Enfin, du début à la fin, on ne te parle que de royaumes. Ce cadre juridique auquel nous sommes soumis, non seulement au Gabon, mais aussi dans le royaume de Dieu, Jésus-Christ appelle ça les clés du royaume. Et ces clés-là, je vous les donnerai. Et aujourd'hui, ces clés-là, nous les possédons. La semaine dernière, nous avons dit beaucoup de choses concernant la Constitution et concernant ce cadre juridique. Mais ce que nous devons vraiment retenir ici, c'est que ces lois, ces clés, du moment où nous entrons dans le royaume, du moment où nous accédons au royaume, par le biais de la nouvelle naissance, du moment où nous devenons enfants de Dieu, ces clés-là, Christ dit, vous les possédez maintenant. Vous les possédez. J'ai pour habitude de dire que ce n'est pas une promesse. C'est un fait établi et réel. Chacun d'entre nous, en tant qu'enfant de Dieu, si tu es en Christ, tu possèdes, tu as à ta disposition des clés. Les clés du royaume. Jésus-Christ appelle ça les clés du royaume. Et ces clés, les clés du royaume, pour les découvrir, pour en connaître leur existence, Dieu nous dit, tu dois lire la Constitution. La Constitution, c'est-à-dire la Bible, la Constitution du royaume, c'est-à-dire la Bible, et le livre juridique, nous avons dit, est le livre juridique dans lequel sont inscrits, en tant que citoyens, tous tes droits et privilèges. C'est pour ça qu'à chaque fois que nous ouvrons la Bible, à chaque fois que nous ouvrons la Constitution du royaume, nous ne sommes pas en train de lire des histoires comme ça. Nous sommes en train de lire un document juridique qui s'adresse directement à nous. Si Dieu prend par exemple des histoires d'avant, c'est simplement pour nous servir d'exemple, nous dit la parole, afin que nous puissions marcher dans la droiture et ne pas commettre les mêmes erreurs que ceux d'avant. Donc, la Bible, dans la Bible sont contenus nos droits et nos privilèges. Rappelons-nous, Dieu a dit à Josué, dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Il ne dit pas que ce livre religieux que ce livre de la loi, parce qu'à l'intérieur, il y a quoi? Il y a la loi de Dieu. Quand tu vas à la bibliothèque, par exemple, je ne sais pas où est-ce qu'il se trouve ici, quand tu vas dans la bibliothèque nationale, par exemple, et que tu prends la constitution de ton pays, tu es en train de tenir entre tes mains le livre de la loi du pays. Et si un jour tu as un problème au niveau juridique et que tu risques d'aller en prison, qu'est-ce que tu fais? Tu vas et tu prends un avocat. Et l'avocat, sur quoi il va se baser pour défendre tes droits devant le tribunal? Il va se baser sur la Constitution. Est-ce qu'on me suit? Il va se baser sur la Constitution parce que tes droits et privilèges sont contenus dans la Constitution. Et c'est pour ça que lorsque l'avocat te défend devant lors du procès, il dit, il est dit dans l'article tel, telle chose, et c'est sur la base de cet article-là que je défends mon client. Et c'est ce que Christ fait au ciel pour toi. Christ, c'est sur la base de la loi qu'il est en train de te défendre. Mais aujourd'hui, Christ est notre loi. Notre loi aujourd'hui, ce n'est plus l'Ancien Testament. Bien que cette loi ne soit pas abolie, mais accomplie en Christ. Est-ce qu'on peut dire amen? Voilà. Donc, la Bible, la constitution du royaume, est le livre dans lequel sont inscrits nos droits et nos privilèges. Et j'ai dit la semaine dernière qu'il n'y a pas plus en danger dans un pays qu'un citoyen qui ne connaît pas ses droits. Si tu ne connais pas tes droits, tu vas te faire avoir. Si tu ne connais pas tes droits, tu es en danger. Quand vous êtes dans une ville comme Paris, où j'étais avant, on voit souvent, il y a certains endroits, on voit souvent des policiers qui se rassemblent, et puis les policiers se mettent à arrêter les gens dans tous les sens, n'importe comment. Et les gens qu'ils arrêtent, c'est jamais des gens qui sont très bien habillés, etc. Ils arrêtent toujours des gens qui sont habillés de façon très délabrée, des jeunes, etc. Et quand ils arrêtent ces jeunes-là, ils les fouillent devant tout le monde. Allez, enlève ta veste, fais ceci, fais cela, demande ton téléphone, tu n'as rien sur toi, etc. Et on le fouille comme ça au vu de tous. S'il connaissait ses droits, il saurait que les policiers n'ont pas le droit de faire ça. Un jour, moi, un policier m'arrête. Et il me dit, monsieur, on va vous fouiller. J'ai dit, vous n'avez pas le droit de me fouiller comme ça, monsieur. Je suis en règle et je n'ai rien fait. Donc, vous n'avez pas le droit de me toucher. Vous pouvez me demander mes papiers, il n'y a aucun problème. Mais me fouiller comme vous faites au vu de tout le monde, ça, vous n'avez pas le droit. Parce que de quoi suis-je accusé? Je ne suis accusé de rien. Donc, il n'y a pas plus en danger qu'un citoyen qui ne connaît pas ses droits. Les enfants de Dieu qui ne connaissent pas la Bible, les enfants de Dieu qui ne savent pas ce qui est écrit dans la Bible sont des citoyens du royaume en danger. Et c'est pour cela qu'ils se font avoir par le diable. Parce qu'on retrouve, on retrouve le plus souvent le diable sachant plus la parole que les enfants de Dieu eux-mêmes. Amen. Nous avons dit également que Dieu dit, médite ce livre de la loi, jour et nuit. Médite-le. Pourquoi Dieu dit médite-le? Médite veut dire simplement étudie-le. Connais-le. Parce que c'est sur la base de la connaissance de tes droits que tu pourras te défendre. Vous vous rappelez pas dans le livre d'Ésaïe, je ne sais plus quel passage, Dieu dit viens et plaidons. Je retrouverai le passage. Viens et plaidons. Plaide ta cause. Quand on va dans la présence de Dieu pour prier, on n'est pas toujours obligé de supplier, hein. On n'est pas toujours obligé de supplier. Quand tu connais tes droits, oui, il y a des temps où tu supplieras. Oui, il y a des temps où tu demanderas la miséricorde de Dieu. Mais il y a d'autres temps où tu diras, Seigneur, sur la base de ta parole. Comme Pierre a dit, Seigneur, il n'y a pas de poisson ici. Il n'y a rien, on a pêché toute la nuit, on n'a rien trouvé. Et Jésus-Christ lui dit, jette le filet à tel niveau, à tel endroit. Il dit, ok, on n'a rien trouvé, mais sur ta parole, Seigneur, je jetterai le filet. Vous me suivez? Donc Dieu dit, connais tes droits, médite-le. Et après, il dit, agis selon tout ce qui est écrit. Mets la parole en pratique. Et ensuite, il dit, c'est alors que tu auras du succès. L'un des rares passages dans toute la Bible où le mot succès apparaît. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes quoi, entreprises. C'est alors que tu réussiras. Pourquoi Dieu utilise le mot réussir? Il utilise le mot réussir parce que c'est ce que nous cherchons. Nous voulons tous réussir. Nous voulons tous, vous n'avez pas vu que les sujets qui parlent de réussite en général passionnent les gens. les sujets qui parlent de succès et de réussite personnelle et de financière, etc., professionnelle, ça passionne les gens. Parce que tout le monde veut réussir. Tout le monde veut être épanoui. Personne ne s'est levé un beau matin et est entré dans une librairie et a acheté un livre où il est écrit les sept façons les sept meilleures façons d'échouer dans la vie. Tu t'es jamais levé un matin pour acheter un tel livre. Non, en général, tu achèteras toujours les sept clés, les sept lois qui t'amènera à la prospérité financière. J'en sais rien, moi. Voilà. Donc, la réussite, la véritable réussite. On aime souvent dire, nous, les enfants de Dieu, en tant que chrétiens, oui, c'est en Christ, oui, c'est en Jésus. Mais Jésus nous dit, ok, en Christ, tu es sauvé. En Christ, tu es dans le royaume. Mais Jésus-Christ dit ici que, Dieu nous dit ici que pour réussir, il te faut connaître ce qui est inscrit dans le livre de la loi. C'est-à-dire, il faut connaître tes droits. Et ces droits et ces privilèges, Jésus-Christ les appelle les clés du royaume. Et ce sont ces clés-là que nous avons commencé à étudier. Est-ce qu'on peut dire amen? Le royaume des cieux, c'est notre héritage. C'est ce que Dieu nous a donné. C'est ce que Dieu nous a donné et tout ce dont nous avons besoin se trouve dans le royaume. C'est pour cela que Jésus-Christ fait un discours très célèbre qu'on appelle les béatitudes, où il dit ne vous inquiétez pas de ceci, ne vous inquiétez pas de cela, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, ce que vous boirez, ce que vous porterez. Ne vous inquiétez pas de ça et de ça. Cherchez premièrement quoi? Le royaume. Parce que c'est dans le royaume que il y a toutes ces choses qui vous seront données par-dessus, il dit ensuite. Est-ce qu'on me suit? Le royaume. Et en tant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui, j'ai beaucoup observé. Je pourrais me tenir devant vous et raconter tout un tas de belles choses. Je pourrais crier, je pourrais prendre le micro et exciter les gens et faire tout un tas de choses. Et ça fait maintenant 11 ans que je suis dans le Seigneur. Et j'ai eu beaucoup de mal à venir dans le Seigneur parce que lorsque les gens voulaient m'amener au Seigneur, je leur disais, moi, je suis quelqu'un, j'ai fait l'école. Donc, je n'ai pas envie de m'engager dans quelque chose si je n'ai pas compris exactement de quoi il s'agit. Je n'ai pas envie de rentrer dans l'église par la fenêtre, moi. J'ai envie de rentrer par la grande porte. J'ai envie de savoir exactement ce que je fais. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas encore quand nous sommes dans Christ parce que nous grandissons chaque jour. Mais en ce qui concerne mon salut, je veux savoir exactement ce que Christ a fait pour moi. Donc, j'ai pris le temps de comprendre. Et quand j'ai compris ça, le jour où j'ai compris ça, j'ai commencé à pleurer. Et j'ai dit, Seigneur, ok, j'abandonne tout ce que je fais dans ma vie passée, tout ce que je faisais dans ma vie passée. Mais maintenant, là, non seulement je vais marcher avec toi, mais je prie que tu m'accordes la révélation de la connaissance des clés du royaume pour que je puisse prospérer. Parce que moi, je veux prospérer, moi. Moi, je veux réussir. Je veux réussir pas seulement au niveau financier, parce que quand on parle de réussite, les gens ont tendance à croire que ça s'adresse seulement au niveau financier. Non. La réussite, c'est dans tous les domaines de la vie. Tous les domaines de la vie. Que ce soit au niveau de ton mariage, que ce soit au niveau de l'éducation de tes enfants, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau de ta carrière professionnelle ou, je sais pas moi, politique, tout ce que tu veux, que ce soit à tous les niveaux. Si tu es un entrepreneur, voilà, Dieu s'intéresse à tous les aspects de notre vie. Et j'ai dit, Seigneur, et c'est la prière que nous devons tous faire, accorde-moi la grâce de réussir et de prospérer à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Amen. Ok, on va avancer. Et nous avons parlé d'un point très important. Nous avons dit les clés du royaume, Jésus-Christ nous les a données. Nous les avons déjà en notre possession. Nous les avons déjà en notre possession, les clés du royaume. Maintenant, ce que Dieu nous demande, c'est de posséder la clé des clés, qui est la connaissance. Ou encore la sagesse. Il y a un livre dans la Bible, il y a un livre dans la Constitution du Royaume qui s'appelle le Livre des Proverbes. Dans ce livre, dans ce document, on te parle tout le temps d'une clé. Et celui qui a reçu la clé des clés, la sagesse, te dit, ça c'est la clé des clés et c'est ce que tu dois chercher plus que tout. Il dit, acquiert la sagesse. Vends tout ce que tu possèdes et avec ça, acquiert l'instruction. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi Salomon dit ça? Parce que Salomon est celui qui a fait une offrande insolente un jour à Dieu, et Dieu lui est apparu et Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Je ne suis pas sûr que tu demanderais la même chose que Salomon si Dieu un jour t'apparaissait et te demandait, qu'est-ce que tu veux? Et Salomon n'a pas demandé d'argent. Si Dieu s'adresse à toi, tu vas dire, ah Dieu, je cherche le travail, trouve-moi le travail. En général, on va regarder d'abord à nos besoins immédiats. Tu es à pied depuis, je ne sais pas combien de temps, ah Dieu, donne-moi la voiture, s'il te plaît, j'ai besoin d'une voiture, s'il te plaît. Oh, je n'arrive pas à avoir d'enfant, Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, je n'arrive pas à me stabiliser avec un homme. Seigneur, donne-moi un homme bien avec qui je pourrais me marier. Oh Seigneur, je veux avoir une carrière professionnelle qui te glorifie. Oh Seigneur, donne-moi un ministère qui te... On va dire tout un tas de choses qui sont des besoins immédiats. Mais Salomon, lui, à l'âge de 20 ans, il a été très intelligent parce qu'il avait pris le temps d'observer son père David. Il avait compris que David avait reçu une clé qui s'appelait la sagesse. Et Salomon acquiert la sagesse et dit, mon fils, si tu acquiers la sagesse, tout ce dont tu as besoin, tu l'auras dans ta vie. Pas la sagesse des hommes, mais la sagesse de Dieu. Et pour acquérir cette sagesse-là, il faut que tu sois en communion avec l'esprit de sagesse, le Saint-Esprit, car c'est lui qui te révèle les choses. Est-ce que vous me suivez? Et la clé des clés qui te permet de faire fonctionner toutes les autres clés dans le royaume, c'est la clé de la sagesse. C'est la clé de la sagesse. Et cette clé est extrêmement importante. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans cet enseignement-là. Et en continuant à chercher par rapport à cet enseignement-là, Dieu m'a ouvert les yeux sur quelque chose que je vais partager avec vous aujourd'hui, sur comment prospérer avec les clés du royaume. Comment grandir avec les clés du royaume et comment réussir avec les clés du royaume. Et tout à l'heure, j'ai demandé à ce qu'on ouvre le livre de Marc, chapitre 10, verset 17. C'est un passage très intéressant. Il est écrit ceci. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à ses genoux devant lui, il dit, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Et Jésus lui dit, Jésus l'ayant regardé, Jésus l'aima. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Jésus l'aima et lui dit, « Il te manque quelque chose. » Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Ce passage nous montre l'attitude que la plupart des gens ont quand ils découvrent comment fonctionner dans le royaume. Nous désirons connaître Dieu. On veut avancer avec le Seigneur. On dit, Seigneur, révèle-toi à moi. Mais le plus souvent, quand Dieu se révèle à nous, on a du mal à accepter sa façon de penser. On a du mal à l'accepter. Le principal problème que Dieu a avec ses enfants, le principal problème que Dieu a avec son Église, c'est notre mentalité. C'est notre mentalité. Et pour bénéficier des droits et des privilèges qui sont contenus dans la Constitution, pour pouvoir en jouir dans sa vie chrétienne, il faut adopter la mentalité du royaume. C'est pour cela que Jésus-Christ avait des problèmes avec les gens. Et c'est pour cela qu'il est très incompris, il était très incompris et qu'il est très incompris encore aujourd'hui. Je vous assure, ce dont je suis en train de parler là, si on comprend ça, je vous assure, si vous comprenez ça, votre vie est changée. Parce que le jour où on comprend ça, on sort de la religion. On ne fonctionne plus comme un religieux. Regardons autour de nous et voyez, il n'y a que des religieux. Les gens sont dans la religion. Les gens sont dans la religion. Les gens ne prospèrent pas dans la religion. Les gens ne sont pas heureux dans la religion et les gens ne donnent pas envie à ceux du dehors de rejoindre leur religion. Parce que si la religion était la solution à tous nos problèmes, alors il y a longtemps qu'on aurait la paix sur terre. Si la religion était la solution à tous nos problèmes, alors on ne trouverait pas autant de gens malheureux dans l'église. S'il y a autant de gens malheureux dans l'église, s'il y a autant de gens qui ne parviennent pas à la maturité spirituelle dans l'église, qui ne grandissent pas dans l'église, qui ne s'épanouissent pas dans l'église, alors ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Et le principal point que nous n'avons pas compris, c'est le royaume. C'est que Dieu, lui, Jésus-Christ, est mort pour un royaume. Mais nous, on pense que Jésus-Christ est mort pour une religion. Jésus n'est pas mort pour une religion. Et ça, c'est le message de la maison du bâtisseur. De faire comprendre aux gens que vous devez changer de mentalité. Le message qui change les vies, le message qui transforme, ce n'est pas le message de la religion. Le message qui transforme, c'est le message du royaume. Et c'est pour cela que c'est le message que Satan combattra le plus. Et la parabole de toutes les paraboles, qui est la parabole du semeur, nous parle de ça. Un semeur vint et fit tomber sa semence ici. Et les oiseaux vinrent et mangèrent la semence. Et nous avons parlé de ça la semaine dernière. Lorsque Jésus-Christ raconta cette parabole, personne n'avait compris. Personne n'avait compris. Et quand il entre dans la maison, les disciples viennent le voir. Et les disciples lui disent, pourquoi parles-tu toujours en parabole à ceux du dehors? Il dit, parce que à vous, il dit bien à vous, il vous a été donné de comprendre et de connaître les mystères du royaume. Le mot mystère vient d'un mot, on l'a dit la semaine dernière, un mot grec qui se prononce mysterion, qui veut simplement dire secret. C'est pour ça que dans la version française courante ou dans la version semeur, il est écrit, il vous a été donné à vous de connaître les secrets du royaume. Et nous avons dit que l'église vient d'un mot grec que l'on prononce ecclesia et qui n'a pas été prononcé pour la première fois par Jésus, mais il a été prononcé pour la première fois par les Grecs. L'ecclesia, c'est-à-dire l'église, est un concept qui a été inventé par les Grecs. Sauf que les Grecs ne l'ont jamais appliqué. C'est lorsque l'Empire romain est arrivé, des siècles après, que l'Empire romain a récupéré ce concept-là, ecclesia, qu'ils ont traduit dans un mot que nous prononçons en français, sénat. Et on a défini ce que c'était que le sénat. Le sénat est l'ecclesia, le sénat est l'église du gouvernement. Le sénat, là, avec la présidente du sénat actuel. C'est une église. Le mot ecclesia veut dire que l'on prononce église, c'est le Sénat. C'était le Sénat de César. Le Sénat c'était quoi? Le Sénat, c'était un groupe de personnes qui étaient directement élues par l'empereur. Et c'était des gens que l'empereur gardait auprès de lui et avec qui il échangeait en permanence. Et c'était des gens qui avaient accès à des secrets très importants de l'État. C'était des gens, leur travail au quotidien, c'était de capter la pensée du roi et de pouvoir traduire cette pensée en loi, qui était ensuite appliquée dans tout le royaume. C'est ça le rôle du Sénat. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les Grecs qui ont emmené le concept de la démocratie, qui existe aujourd'hui dans tous les pays, le Sénat a été conservé dans nos démocraties modernes. Et c'est pour cela que, à la tête de l'État, il y a l'exécutif, le législatif et le judiciaire. L'exécutif, c'est le gouvernement qui s'en occupe. Le législatif, c'est qui s'en occupe? C'est un groupe de personnes appelées les parlementaires ou encore les députés qu'on dit l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Est-ce que c'est faux? Voilà. L'Assemblée nationale. Et eux, leur rôle, c'est quoi? Eux, leur rôle, comme eux, ils sont dans la démocratie, leur rôle, c'est de capter la pensée de qui? Pas du chef de l'État, du peuple. Ils captent la pensée du peuple et ils traduisent cette pensée en loi. Et quand ils ont voté une loi à l'Assemblée nationale, cette loi n'est jamais appliquée immédiatement sur le territoire. Cette loi passe d'abord au Sénat. Et vous savez qui valide, dans un terme juridique, qui promulgue la loi? C'est le Sénat. C'est pour cela que l'Assemblée nationale, souvent, a des différends avec le Sénat parce qu'elle vote une loi et lorsqu'elle envoie ça devant le Sénat renvoie la loi en disant « réétudier la loi » ou « on n'accepte pas ». Et ça crée des soucis. Et quelle est la personne entre les deux qui doit trancher? C'est une personne qu'on appelle le chef du gouvernement, c'est-à-dire le premier ministre. C'est lui qui est là pour trancher lorsqu'il y a un différend. Donc le Sénat, c'est cette chambre-là qui est proche du chef de l'État. Et l'Église est ce Sénat-là. C'est pour ça que Christ dit, sur ta parole, Pierre, je bâtirai quoi? Mon ecclésia. Je bâtirai mon église, je bâtirai mon Sénat. Et en fait, l'Église de Christ, c'est-à-dire toi et moi, qui nous sommes? Nous sommes des membres du Sénat. Et tout comme dans le naturel, les membres du Sénat sont choisis directement par au suffrage universel par le gouvernement, par des membres du gouvernement. De même, l'Église que nous sommes choisis directement par Christ. Amen. Et le Sénat, tout comme dans le naturel, le chef de l'État passe toujours par le Sénat pour pouvoir, pour lui communiquer sa pensée. De même, Dieu passe toujours par son Église pour lui communiquer sa pensée. C'est pour cela que les personnes sur terre qui sont là pour faire connaître la pensée de Dieu au monde qui est perdu, c'est l'Église. Est-ce que vous comprenez mieux pourquoi l'Église est importante? C'est pour ça que l'Église est très importante aux yeux de Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, vous êtes la lumière du monde. Parce que le monde vit dans les ténèbres et c'est vous qui êtes censé l'éclairer. Et la principale raison pour laquelle Jésus-Christ n'est toujours pas revenu aujourd'hui, c'est parce que tout simplement l'Église n'a pas encore accompli sa mission. C'est l'unique raison. C'est pour cela que quand les disciples ont demandé à Jésus, « Seigneur Jésus, quand est-ce que tu vas revenir dans ton royaume ?» Il a dit, « Ça, il n'y a que mon Père qui le sait. » Jésus dit, « Même moi, je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir. » Il n'y a que mon Père qui le sait. Donc, le retour de Jésus dépend de l'Église. Parce que Jésus-Christ dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, c'est lorsque cette bonne nouvelle du royaume des cieux aura été prêchée à toute la création, alors je reviendrai. Vous ne connaissez pas ce passage? C'est ce passage-là qui révèle le retour de Jésus. Lorsque la bonne nouvelle du royaume des cieux aura été révélée à toute la création, est-ce que la bonne nouvelle du royaume a été prêchée à toute la création? Pas encore. Il y a beaucoup de gens au fin fond de l'Asie là-bas qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, qui n'ont jamais entendu parler du message du royaume. Donc nous, notre rôle n'est pas de rester cantonné dans nos quatre murs. Notre rôle, c'est de répandre le plus possible la parole afin que le maximum de personnes l'entendent. Est-ce qu'on peut dire amen? Voilà, donc, le principal problème aujourd'hui que Dieu a avec son peuple, c'est la mentalité. Et pourquoi on a pris le passage de Marc 10? Parce que nous avons ici l'histoire de quelqu'un qui voulait connaître le Seigneur, de quelqu'un qui voulait suivre le Seigneur, comme la plupart d'entre nous. Mais lorsqu'il entre en contact avec le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur challenge? Qu'est-ce que le Seigneur met au défi? Sa mentalité, sa façon de penser. Et ce passage que nous venons de lire nous révèle deux vérités. La première vérité que ce passage nous révèle, qui est très importante, c'est que notre amour pour Dieu et notre sincérité ne nous garantissent pas la prospérité dans le royaume. Ça, c'est la première chose que Jésus-Christ nous révèle dans ce passage. Notre amour pour Dieu et notre sincérité ne nous garantissent pas notre prospérité dans le royaume. Tu peux être sincère. Tu peux aller à l'église tous les jours. Tu peux prier. Tu peux te consacrer. Marcher dans la sainteté. Connaître la Bible par cœur. Mais être pauvre et malheureux. Pourquoi Dieu dit dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit, mon peuple se meurt à cause de quoi ? » Son ignorance, son manque de connaissance. Si tu ne connais pas les clés du royaume, tu ne prospéreras pas. La seule chose qui peut te permettre de prospérer dans le royaume, c'est de comprendre les clés. Mais le problème, et c'était le problème du jeune homme riche, c'est que ce jeune homme n'avait pas la mentalité du royaume. Ce jeune homme avait une mentalité qu'on appelle la mentalité du monde. Parce que ce jeune homme était très attaché à ses richesses. Et quand Dieu nous révèle sa façon de penser, quand Dieu nous révèle son fonctionnement, quand Dieu nous révèle comment prospérer dans le royaume, en général, on a du mal à l'accepter. On a du mal à l'accepter. Pourquoi on a du mal à l'accepter? Et c'est ce qui ouvre des débats dans l'église, où les gens quittent les églises dans tous les sens. C'est parce que les gens essaient de comprendre Dieu avec la mentalité du monde. Vous voulez que je vous parle de quelque chose de très important qui suscite un gros débat dans l'église? La dîme. Il y a eu tellement de mal qu'on a fait dans l'église aux chrétiens à cause de cette histoire de la dîme. Bon, on parle d'argent, ok. La semaine prochaine, on parlera un peu d'entrepreneuriat au séminaire. Je ne pense pas que j'aborderai le sujet de la dîme, mais bon. La dîme, la constitution du royaume est claire. Elle dit, prends les prémices de tes revenus et apporte-les à l'Éternel. C'est clair. Ecclésiaste nous dit, dans le livre d'Ecclésiaste, je crois que c'est le chapitre 9 ou le chapitre 10, il nous dit, les commandements de Dieu sont simples, mais c'est nous qui les compliquons. Dieu dit, tu veux être béni au niveau financier. La toute première chose, la toute première clé que tu dois activer pour être béni au niveau financier, c'est ta dîme. Donne ta dîme. Maintenant, on peut encore débattre en disant, où est-ce que je dois donner ma dîme, etc. Parce que là où je donne, le gars qui est devant là, il vole nos dîmes. Donc, je n'ai pas envie de mettre ça là. Donc, où est-ce que je dois la mettre? Mais tu n'es pas obligé de donner ta dîme absolument à l'église là où tu pries. Est-ce que tu sais ça? Bien entendu, c'est un peu logique de donner ta dîme dans un lieu où tu es béni spirituellement. Mais il y a des gens qui ne donnent pas leur dîme dans leur église. Il y a des gens qui donnent leur dîme dans des organismes humanitaires. Il y a des gens qui donnent leur dîme, qui donnent leur dîme telle une semence dans des organismes qui envoient des enfants à l'école, dans des pays pauvres. Tu donnes ta dîme. En fait, ta dîme, il faut la donner dans un organisme, dans une organisation où tu sais que la main de Dieu est dessus. Nous, communément et logiquement, on le donne à l'église. Ok. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des païens qui ont compris cette clé? Qui ont compris cette clé et qui donnent les prémices de leurs revenus à des organismes humanitaires et qui sont bénis financièrement. Je te prends un exemple. Et c'est quelque chose peut-être que tu ne sais pas. Nous connaissons tous Bill Gates. Bill Gates a décidé de prendre plus de la moitié de sa fortune personnelle et de l'investir dans une fondation qu'il a appelée la fondation Bill Gates, qui s'occupe de millions et de millions de gens en Afrique et dans le monde, en les envoyant à l'école, en apportant de la nourriture, etc. Tu vas dire que la main de Dieu n'est pas dessus. Lui, il dit, je donne ça. Mais quelqu'un qui dit, moi, je n'ai pas d'église. Moi, je ne vais pas à l'église. Mais je vais prendre 10% de mes revenus et je vais obéir à cette clé-là. Et je vais le semer dans cette œuvre-là. Ses finances seront bénies. Est-ce que vous me suivez? C'est une clé. Donc, il y en a beaucoup d'autres des clés. Il y en a beaucoup d'autres des clés. Il y a des gens qui disent, je ne suis pas aimé. Je manque d'amour dans ma vie. Mais commence à activer la clé de l'amour d'abord. Commence à faire preuve d'humilité, d'amour et de douceur vis-à-vis des autres. Et les autres te le rendront en retour. On avance. Donc notre amour pour Dieu ne nous garantit pas la prospérité dans le royaume. Notre amour pour Dieu ne nous garantit pas la prospérité dans le royaume. Deuxième vérité que Jésus-Christ nous révèle dans ce passage, c'est que l'amour de Dieu pour toi et moi ne nous garantisse pas la prospérité dans le royaume. Dieu peut t'aimer et Dieu nous aime. Mais si c'était juste l'amour de Dieu qui nous garantissait la prospérité, il y a longtemps qu'on serait plus heureux que ça. Dieu nous aime. Et Dieu veut que nous parvenions à la connaissance et à la sagesse pour prospérer dans le royaume. Et pour cela, il nous a donné les clés. Le problème que Dieu a avec nous, c'est que nous ne nous instruisons pas. On préfère plus lire des gros bouquins qui parlent d'économie et qui ont attrait à notre carrière professionnelle que de passer du temps à lire le livre de la loi. Combien de temps passes-tu à lire la Bible par jour? Alors que Dieu dit dans Josué 1:8, jour et nuit, médite ce livre. Jour et nuit. Jour et nuit. Dans le livre des Proverbes, il y a 31 proverbes. Les gens qui ont Les gens qui ont travaillé ce bouquin il y a des siècles ont fait exprès de mettre 31 parce qu'ils savaient que dans le mois, il y avait 31 jours. Pour que tu puisses en lire un par jour. Un proverbe de sagesse par jour à méditer. C'est des choses simples. Hein? Mais moi, c'est des choses, je vous assure, je m'efforce à les appliquer dans ma vie. Et ça me fait beaucoup de bien. Et ma prière, c'est que chacun d'entre nous, on puisse en faire autant. Donc, l'amour de Dieu ne nous garantit pas la prospérité dans le royaume. Donc, on peut aimer Dieu et être convaincu qu'il nous aime aussi, mais cela ne nous garantit pas que nous allons prospérer. Que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau de notre foyer, que ce soit au niveau de l'éducation de nos enfants. La seule chose qui nous garantit la prospérité dans le royaume, la seule chose qui nous garantit le bonheur, la seule chose qui nous garantit la réussite dans le royaume, Josué 1:8, c'est de connaître tes droits et tes privilèges, c'est-à-dire de connaître les clés du royaume. Les clés du royaume, est-ce qu'on peut dire les clés du royaume? Et une fois que nous sommes, une fois que nous naissons de nouveau, une fois que tu, le jour où tu as donné ta vie à Christ, une fois que tu es entré dans le royaume, Colossiens 1, verset 9 dit que nous, il nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière, du royaume du monde, dans le royaume de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Il nous a transportés. Le mot transporté ici, derrière, c'est un mot grec que l'on peut aussi traduire par le mot transféré. Il y a eu un transfert. Tu es passé du monde à Christ. C'est pour ça que la Bible ne dit jamais que nous sommes de Christ ou que nous sommes avec Christ. Elle dit nous sommes en Christ. Et être en Christ, c'est être dans le royaume. Peut-être que tu ne le vois pas de tes yeux, mais nous sommes dans le royaume. C'est pour ça que Jésus-Christ, dans Jean 17, avant de partir, qui fait sa dernière prière, il dit, Père, garde-les, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Est-ce que vous me suivez? Je vais te donner encore une autre image pour que tu comprennes mieux. Imagine que tu es dans un sous-marin immergé en profondeur. Quand tu te mets au hublot, qu'est-ce que tu vois? Tu vois tout ce qui se passe au fin fond de la mer, n'est-ce pas? Tu vois les poissons passer, tu vois le gros poisson qui mange le petit, tu vois tout un tas de choses. Ben, c'est exactement la même chose pour nous. Nous sommes dans un sous-marin appelé le royaume et nous voyons tout ce qui se passe autour de nous. Mais qu'est-ce qui se passe si tu casses le hublot du sous-marin? Qu'est-ce qui se passe? L'eau rentre et tu vas te noyer. Tu vas te noyer. C'est exactement la même chose pour le royaume. Le fait de casser le hublot, c'est comme le fait de pécher. C'est comme le fait de s'abandonner ou d'embrasser les valeurs de ce monde. Tu vas te noyer et tu vas mourir. Est-ce qu'on me suit? C'est ça le royaume. Donc, dans le royaume, on est immergé dans le monde, tout en étant dans le royaume, mais on ne fonctionne pas comme le monde. On ne doit pas embrasser les valeurs de ce monde pour pouvoir prospérer, pour pouvoir être heureux. Et le problème aujourd'hui que Dieu a avec son Église, c'est que les enfants de Dieu passent plus leur temps, ou bien sont plus conscients des valeurs de ce monde que des valeurs du royaume. Les enfants de Dieu passent plus leur temps à s'instruire des choses du monde qu'à s'instruire des choses du royaume. C'est pour cela que les enfants de Dieu sont autant malheureux. Et le jeune homme riche avait des problèmes avec ce que Jésus lui demandait, parce qu'il lui demandait quelque chose qui allait à l'encontre de tout ce qu'il avait entendu et cru au sujet de la prospérité et du succès. Pourquoi Jésus-Christ dit qu'il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume? Parce que les clés, les principes du royaume sont totalement opposés au fonctionnement du monde. Si tu veux prospérer dans ton mariage, on t'a toujours appris qu'ici, ta femme doit être soumise. Dans le royaume aussi, je pense.
D'accord, d'ailleurs.
Ta femme doit être soumise. On doit faire comme ça. Tu dois tout engueuler sur tout le monde. Tu n'es pas obligé de manifester de l'amour. On t'a enseigné une façon de fonctionner. Quand Dieu entre dans ton mariage, Dieu dit, femme, respecte ton mari. Homme, aime ta femme. Comme Christ a aimé l'Église. Toi, en tant que femme, tu dis, quoi? Pourquoi moi je veux l'aimer et lui ne va pas m'aimer en retour? Non, il n'a pas dit qu'il ne va pas t'aimer. Il est en train de dire que toi, en tant que femme, ton premier besoin pour pouvoir être heureux dans ton mariage, c'est l'amour. Ton homme, ton mari, son premier besoin, ce n'est pas l'amour, c'est le respect. Dans le royaume, ça fonctionne comme ça. Si tu veux qu'il te rende de l'amour, parce que c'est ce dont toi tu as besoin, tu dois obéir à une loi que l'on appelle donner et recevoir. Si tu donnes à ton homme le respect, il va te rendre de l'amour. Homme, si tu veux que ta femme t'aime et te mette bien dans la maison, aime-la, parce que c'est ce dont elle a besoin. Vous me suivez un peu? C'est une loi. Et il y a des femmes qui disent, moi, lui, le respecter, jamais. Tu sais comment il est? Tu ne le respectes pas. Je le déshonore, tu ne le respectes pas. Quoi? Dieu dit, ok, tant que tu restes sur cette position, tu ne seras pas heureuse. Et ton mariage ne prospérera pas. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Les clés. On a pris un autre exemple la semaine dernière, l'exemple de la multiplication des pains. Regardez ce que Jésus-Christ fait. Étudiez bien le contexte. Jésus-Christ leur parle d'abord de la parabole du semeur. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné de comprendre les mystères du royaume. Juste après, la Bible dit que la foule était nombreuse. Et Jésus-Christ eut compassion parce qu'elle était comme des brebis sans berger. Et les disciples s'approchent de Jésus et lui dirent, parce que quand il leur dit, il vous a été donné à vous de comprendre les mystères du royaume. Ils sont où à ce moment-là? Ils sont dans la maison. Parce qu'il venait d'enseigner. Et ensuite, il est entré dans la maison. Mais la foule est restée dehors. Et là, il leur enseigne ce que veut dire la parabole du semeur. Et juste après, qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Mais il sort. Et il sort. Quand il sort, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la foule. Et il dit, il eut compassion, car les brebis étaient comme sans berger. Et là, il faisait soir. Et les disciples lui disent, ils viennent, Seigneur, Seigneur, ils viennent de sortir de la maison. Ils viennent de recevoir la révélation de la parabole du semeur. Seigneur, renvoie la foule. Et là, en tant que bon professeur, qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Mais je viens de vous enseigner une leçon, non? Et on va maintenant faire le test. Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Et eux, au lieu de penser à la leçon qu'ils venaient d'apprendre, ils disent, mais Seigneur, nous n'avons que deux pains et deux poissons, voyons, nous n'avons rien. Non, il dit, qu'avez-vous? Mais nous n'avons que deux pains et deux poissons. Incrédulité. Incrédulité. Et comme Jésus-Christ voit qu'ils viennent de rater le test, il dit, bon, emmenez-moi ça. Regardez, je vous donne la réponse au test. Je vais activer une clé qui va amener le miracle. Prière d'action de grâce. Il prit le pain, leva le pain au ciel et rendit grâce. C'est tout ce qu'il fit. Il rendit grâce. Parfois, quand il te manque à manger à la maison, au lieu de te plaindre, parce que tu n'as pas d'argent pour assister à manger, rends grâce. Rends grâce. Il y a un serviteur de Dieu qui s'appelle Charles Talingano, que j'ai rencontré il y a quelques années et qui est connu pour un témoignage très célèbre. C'est qu'il était fauché, il n'y avait pas un morceau de pain chez lui, et il entre d'une croisade, et quand il entre de la croisade, il arrive dans sa maison, et il s'assoit à table pour manger. Et sa femme lui, et les enfants viennent s'asseoir à table avec lui. Il dit, mais chérie, on va manger? Donc lui, il pense qu'il va manger. Et sa femme est toute gênée, en fait. Parce qu'elle sait que son mari est fatigué, il vient d'un long voyage, et elle sait que là, il faut que le gars mange. Mais sauf qu'il n'y avait rien à la maison. Et elle vient, et elle lui dit, il n'y a rien à manger à la maison. Il dit, comment ça, il n'y a rien à manger? Elle dit, il n'y a rien. Je ne peux pas te faire à manger aujourd'hui. Et il dit, ok, assieds-toi. Il connaissait la clé. Vous savez ce qu'il fit? C'est un témoignage très connu, qui est très fort. C'est qu'il dit à sa femme, prenons-nous les mains avec les enfants. Et il rendit grâce. Il dit, Seigneur, nous te rendons grâce pour le repas de ce jour. Nous te rendons grâce car tu es celui qui pourvoit à tous nos besoins. Donc sa femme s'est... Elle dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est un témoignage qu'il a l'habitude de raconter quand il voyage. Elle lui dit, qu'est-ce qu'il fait, mon mari? Il rendit grâce. Et dès qu'il dit, amen, au nom de Jésus. Tu vois, tout le monde se regarde. Tout le monde dit, amen. Et tout le monde, attends, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tout d'un coup, à la porte, coq, coq, coq. Sa femme se lève, quand elle ouvre, elle voit le voisin qui vient avec une grosse marmite qui dit, on a pensé à vous aujourd'hui, on va vous donner à manger. La prière d'action de grâce est une prière puissante, gloire à Dieu. Donc, tout comme le jeune homme riche, ignorer les clés du royaume peut nous détruire et nous rendre malheureux toute la vie. Connaître les clés, c'est très important. Les clés du royaume, est-ce qu'on peut dire les clés du royaume? Et chaque fois, comme le jeune homme riche, chaque fois que Dieu veut t'emmener à prospérer davantage, chaque fois que Dieu voudra t'emmener dans une nouvelle dimension, Dieu va toujours te demander de laisser quelque chose, de le donner. Toi, dans le monde, quand tu as peu, on te demande de retenir, on te demande de le garder, de le protéger. Dans le royaume, on te dit « libère ». Le prophète Élie va vers la veuve de Sarepta et elle dit « nous allons mourir ». Il dit « donne-moi ce que tu as à manger ». Élisée, le prophète, il va chez l'autre dame qui vient lui dire, l'autre veuve qui lui dit « mon serviteur est mort et il nous a laissé avec tout un tas de dettes ». Qu'est-ce que tu... Elle dit « je n'ai rien ». Il dit « qu'est-ce que tu... parce que les créanciers veulent prendre mon enfant et l'emmener en esclavage. Trouve-nous la solution ». Il dit « ok, la solution est très simple, active la clé ». Quelle clé? Qu'est-ce que tu as? Il dit « je n'ai rien ». Qu'est-ce que tu as? Je n'ai rien. Ah oui, je me rappelle, j'ai une petite fiole d'huile qui reste dans la maison. Ok, c'est suffisant. Prends ça avec des vases et puis tu vas chez les voisins et tu ramènes et tu verras, Dieu remplira. Et le miracle se fit. Vous connaissez ce passage? Le miracle se fit. Donc, connaître les clés est ce qui nous rendra heureux. Connaître les clés est ce qui nous permettra de prospérer. Mais pour cela, Dieu nous demandera toujours de libérer quelque chose. Certains, ça va être de l'argent. D'autres personnes, ça va être une relation mondaine qui ne glorifie pas Dieu. Une personne que tu aimes ou une personne avec qui tu as une certaine relation et tu ne veux pas lâcher alors que tu sais que ton bonheur est dans le détachement de cette relation. Certains d'autres, ça va être une position sociale. Certaines personnes, ça va être... Enfin, peu importe. Dieu te demandera toujours de donner quelque chose. Chaque fois que tu as besoin de quelque chose en retour. Ça peut être quelque chose de physique, comme ça peut être quelque chose d'émotionnel ou de spirituel. Est-ce qu'on me suit? Donc, nous avons tous des choses auxquelles nous tenons. Et à nous maintenant de trouver la bonne clé par la foi et de l'activer et de libérer ce que nous devons libérer afin qu'il y ait un échange, afin qu'il y ait un transfert et que nous prospérons. Est-ce qu'on me suit? Donc, le monde nous apprend à nous enrichir nous-mêmes. Pour parler un peu de prospérité, que ce soit financière par exemple. Le monde nous apprend à nous enrichir nous-mêmes. Dans le royaume, on ne s'enrichit pas soi-même. Dans le royaume, c'est Dieu qui nous rend riche. Le monde nous apprend à nous enrichir par tout un tas de procédés. Écraser les autres, tuer les autres, voler les autres, se corrompre de tout un tas de manières. Dans le royaume, il y a une clé qui dit, Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est une clé. La bénédiction. Bénédiction veut simplement dire bénédire. C'est-à-dire dire une bonne parole à quelqu'un. Et la Bible dit que nous sommes bénis en Christ de toutes sortes de bénédictions. Dieu nous a bénis en Christ de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Donc, ça c'est un verset que j'aime beaucoup et c'est un verset que j'ai souvent tendance à répéter. Parce que c'est un verset qui a changé ma vie. Parce que beaucoup de gens cherchent à être bénis. Beaucoup de gens cherchent la bénédiction. Mais tout comme toi, quand ton enfant est venu au monde et que tu as prononcé des bonnes paroles sur cet enfant-là pour sa vie, de même Dieu a prononcé des bonnes paroles à ton sujet. Maintenant, la réussite se trouve où? La réussite se trouve dans ta capacité à comprendre quelle est la clé pour amener ces bénédictions à l'existence. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Donc, une fois que tu reçois les clés et que tu apprends leur fonctionnement, alors tu t'enrichiras. Pas seulement au niveau financier, mais à tous les niveaux de ta vie, tu t'enrichiras. Il faut juste trouver les bonnes clés. La clé qui te permettra de comprendre comment fonctionnent les autres clés, c'est la clé de la connaissance et de la sagesse. C'est pour cela que Dieu insiste sur cette clé-là. C'est pour cela que Dieu insiste sur le renouvellement de notre intelligence. C'est pour cela que Dieu insiste pour que nous embrassions la mentalité du royaume. C'est pour cela que Dieu insiste pour que nous nous repentions. Et c'est pour cela que Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère, quel est le tout premier mot qu'il a prononcé quand il commença son ministère? Matthieu 4, verset 17. Repentez-vous. Repentez-vous veut dire quoi? Version semeur, changez votre façon de penser. Ça vient d'un mot que l'on prononce métanoïa, qui veut dire changer de mentalité. En fait, en hébreu, quand Jésus-Christ parlait ce jour-là et qu'il disait repentez-vous, il était en train de dire changez votre mentalité. Et c'est pour cela que son message n'était pas toujours compris, parce que les gens ne comprenaient pas. Est-ce qu'on me suit? Les gens ne comprenaient pas. Donc, la prospérité dans le royaume ne touche pas simplement nos finances, elle touche tous les aspects de notre vie. Si nous voulons prospérer, si nous voulons être heureux, si nous voulons avancer avec le Seigneur, quel que soit le domaine, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau de notre mariage, on doit comprendre les clés. Et aujourd'hui, si aujourd'hui le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir enseigner cet enseignement-là, et le séminaire tombe vraiment à pic, parce que la semaine prochaine, nous allons enseigner sur, bien entendu, les principes du royaume dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il y a écrit sur le flyer « Oser entreprendre, réussir avec Dieu dans l'entrepreneuriat ». J'ai reçu des messages de gens qui ont dit « on peut faire de l'entrepreneuriat avec Dieu ». Mais ça, c'est un évangile de prospérité, ça. Il y en a un autre qui m'a envoyé un message en disant « Dans l'église, on n'est pas censé parler de comment acquérir des voitures, des maisons, etc. » Je lui ai répondu, je lui ai dit, mais qui t'a dit comment parler de voiture et de maison? Parce que pour lui, qui dit prospérité, entrepreneuriat égale voiture et maison? Religion. Religion. Il n'a pas compris le royaume. Et pour lui, entrepreneuriat n'a attrait qu'aux affaires. Pour Dieu, entrepreneuriat n'a pas attrait qu'aux affaires. Pour Dieu, entrepreneuriat, c'est bien plus que les affaires. C'est pour cela que lorsque tu dis dans le monde, tout le monde est appelé à devenir entrepreneur, on te répond, c'est faux. Il y en a qui sont appelés à être entrepreneurs, d'autres sont appelés à être salariés, d'autres sont appelés à être au chômage. Enfin, dans le royaume, on te dit, tout le monde est un entrepreneur. Tout le monde. Sauf que chacun est appelé à entreprendre dans son domaine à lui. Amen. Donc, le monde peut t'enrichir de différentes manières. Le monde peut t'enrichir de manière financière. Mais le monde ne t'enrichira jamais dans le but de te rendre heureux. Contrairement à Dieu, lui qui t'enrichit ne fait jamais suivre cette richesse d'un quelconque chagrin. Et le monde, tout ce qu'il peut te donner, il peut le reprendre quand il veut. Dieu, lui, quand il te donne, il t'enrichit et il te rend plus heureux. Le monde, s'il t'enrichit, il ne t'enrichira que pour une seule chose, c'est pour te rendre esclave. Et tout comme le jeune homme riche que le monde avait enrichi, il était tellement attaché à ses richesses qu'il a eu du mal à accepter de les abandonner pour suivre Jésus-Christ. Et l'erreur majeure que beaucoup d'enfants de Dieu font, c'est qu'ils s'enrichissent dans le monde. Et le jour où on leur dit maintenant, laisse tomber ça pour suivre le Seigneur, c'est difficile. Et quand on parle de s'enrichir dans le monde, on ne parle pas seulement de financier. On peut aussi parler aussi d'une relation. Tu as entretenu une relation dans le monde. Et Dieu te dit, tu es maintenant dans le royaume. Laisse ça. Parce que si tu laisses ça, je te donnerai beaucoup plus dans le royaume. Et toi, tu dis, non Seigneur, je ne peux pas laisser ça. C'est trop important pour moi. Je ne peux pas laisser ça. Et tout comme le jeune homme riche, tu t'attristes et tu repars. Et en fait, le problème, c'est quoi? C'est que tu n'avais pas compris. Amen. Gloire à Dieu. Donc, le principal problème que Dieu a avec nous, c'est notre mentalité, notre raisonnement, notre façon de penser. Et pour finir, ce que Dieu nous demande aujourd'hui, c'est de changer notre mentalité. Et dans le royaume, pour recevoir davantage, il faut donner. Il y a un passage dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 8, qui nous dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Donc, la plus belle prière qu'on puisse faire à Dieu, c'est de lui dire « Seigneur, fais-moi connaître tes pensées. » Et quand on ouvre le livre des psaumes, vous n'avez pas remarqué que c'est souvent ce que David demande? Fais-moi connaître tes voies. Proverbe chapitre 19, verset 21 dit, l'homme a beaucoup de projets dans son cœur, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Ce sont les pensées du Seigneur à ton sujet qui s'accompliront. Tu peux faire beaucoup de projets. Une autre version dit, l'homme a beaucoup de plans, dans son cœur. Tu peux planifier ta carrière, tu peux planifier ton mariage, tu peux planifier tes finances, tu peux planifier, souvent même quand les gens se marient, ils disent, bon, nous, on va d'abord rester 2 ans, hein, comme ça, pour bien profiter de notre mariage, et ensuite, au bout de 2 ans, on va faire les enfants. Qui t'a dit que ça se passe comme ça? C'est Dieu qui donne. Ce sont ses desseins qui s'accompliront. Donc, on peut planifier, on peut faire tout un tas de choses, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accompliront. Et ce que Dieu nous demande, c'est de comprendre les clés pour pouvoir activer cette prospérité, ce bonheur-là dans nos vies. Amen. On va incliner nos têtes et on va simplement demander à Christ, on va simplement demander à Dieu de nous faire connaître ses pensées et de nous accorder la révélation de sa connaissance. La Bible nous dit qu'il est l'esprit de sagesse. Il est l'esprit de sagesse. Il est l'esprit de connaissance. Il est l'esprit de grâce. Il est l'esprit de grâce. Il est l'esprit de sagesse. Il est l'esprit qui nous révèle la pensée de Christ. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, nous devons chercher l'esprit de sagesse. Nous devons chercher le Saint-Esprit. Et ma prière, c'est que tu puisses lui demander, Seigneur, accorde-moi la révélation de ta connaissance, afin que je puisse parvenir à la connaissance des clés du royaume qui m'emmèneront à prospérer dans le royaume. Alléluia. Seigneur, merci. Sois au nom.
Nous espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistré à la Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.